Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
L'université Senghor d'Alexandrie en Égypte est un opérateur direct de la francophonie. Elle est une institution de troisième cycle. Peut-être qu'elle donne aussi des formations pour d'autres cycles. Nous allons les découvrir dans cette émission. Elle permet de former et de perfectionner des cadres africains dans divers domaines prioritaires de développement. Alors, quelles sont les conditions pour être admis dans cette institution? Quelles sont les filières qui sont organisées? Nous recevons aujourd'hui pour en parler M. Albert Lourdes, recteur de l'université Senghor, qui est actuellement à Kinshasa pour participer au 14e sommet de la francophonie. M. Albert Lourdes, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous présenter l'université Senghor d'Alexandrie?
L'université Senghor est une institution très particulière parce qu'elle a été créée par le sommet de Dakar en 1989. Elle a été créée par les chefs d'État africains pour l'Afrique. Donc l'université Senghor, c'est l'université de l'Afrique. Et elle est chargée de former des cadres supérieurs capables d'accompagner et d'impulser le développement.
Les cadres de l'espace francophone, bien sûr.
De l'espace francophone, mais spécialement de l'espace africain.
Voilà. Alors dites-nous, quelles sont les filières sont organisées?
L'université Senghor, c'est l'université du développement durable envisagée sous tous ses aspects: santé publique, culture, administration, gestion, environnement. En santé publique, nous offrons deux masters, puisque nous sommes une université essentiellement de master-doctorat, hein, niveau troisième cycle. Deux masters, un master de santé internationale, qui est reconnu aussi par internationalement et que nous faisons d'ailleurs en partenariat avec l'Université de Toulouse. Il y a une bidiplomation. Un master donc de santé internationale et un master de politique nutritionnelle, sécurité alimentaire. En matière de culture, nous avons trois masters. Un master de gestion du patrimoine culturel. Un master de gestion des industries culturelles où nous formons vraiment des entrepreneurs. Et les mémoires de sortie, ce sont des mémoires dans lesquelles les étudiants montent un plan d'entreprise qu'ils vont former dans leur pays, avec le financement d'ailleurs.
Des entrepreneurs culturels.
Oui, c'est cela.
Oui. Hein?
Donc, et nous avons un master de communication, médias et journalisme en culture. Ensuite, à l'administration et gestion, nous avons un master de gestion de projet et un master de bonne gouvernance, administration publique. Et enfin, département environnement, là, qui a eu une grosse activité dernièrement avec le sommet de Rio. Nous avons un master de gestion de l'environnement et un master de gestion des aires protégées. Et puis, nous avons aussi lancé un master à distance pour former les directeurs de collèges et de lycées en Afrique. C'est le master de gestion des systèmes éducatifs qui concerne donc l'administration scolaire du secondaire et qui complète le grand projet IFADEM qui est mené par l'OIF.
Un projet de formation des enseignants à distance.
Des directeurs de lycées et de collèges.
Okay.
Comment gérer une institution scolaire à distance? Et là, nous avons formé déjà 200 directeurs pour l'Afrique.
Pour l'Afrique.
Voilà. Si vous voulez, le problème de l'Afrique, les futurologues nous disent que l'Afrique aura, en 2050, près de 2,5 milliards d'habitants, c'est-à-dire que l'Afrique sera plus peuplée que la Chine.
Plus peuplée que la Chine.
Plus peuplée que la Chine. Et ce sera des jeunes gens qu'il faudra former, parce que s'il n'y a pas la formation, si l'Afrique n'a pas les cadres susceptibles de transformer les finances en investissement, on aura beau mettre des milliards et des milliards sur l'Afrique, ces milliards repartiront sur l'Europe et sur l'Afrique du Nord. Donc, il y a une sur l'Amérique du Nord. Donc, ceci est extrêmement important. Mmh. Il y a un effort de formation à faire. L'Université Senghor, à son niveau, se propose de le faire. Nous allons déjà former plus de 1000 cadres supérieurs par an. C'est-à-dire que dans les 10 prochaines années, il y aura 10 000 cadres formés par l'Université Senghor dans ces différents domaines.
Est-ce que vous recevez plusieurs candidatures des étudiants congolais?
Nous recevons des candidatures d'étudiants congolais. Nous avons d'ailleurs des étudiants congolais régulièrement à l'Université Senghor, et il y en a un à côté de moi qui les représente. Oui. Je crois qu'il y a une association, l'association des étudiants congolais de l'Université Senghor, que je vais rencontrer lundi prochain d'ailleurs.
Ok. Alors Ibio, vous êtes un des étudiants congolais, vous êtes passé par l'Université Senghor. Dites-nous, quelles sont les démarches entreprises pour être admis dans cette institution?
Voilà, il faut d'abord au départ remplir 3 conditions de base. Avoir un diplôme de licence, justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle et ne pas avoir atteint 36 ans, à la date limite dépôt de dossier. Donc pour mon cas, j'ai réuni toutes les conditions en 2007. J'ai envoyé ma candidature en ligne sur le site de l'université. Et je crois 2 mois après, j'ai été convoqué à un examen écrit qui s'est passé à l'ambassade de France. C'était une dissertation qui avait un lien avec la formation que j'avais choisie. À l'époque, c'était un master en management de la culture des médias qui est devenu gestion des industries culturelles. Mmh. Après la réussite à cette dissertation, j'ai été admis à concourir à une épreuve orale en face d'un des directeurs de l'université à Brazzaville, ambassade de France toujours. Et au bout de cet exercice, j'ai réussi et j'ai été admis à l'université. Bon, l'université vous envoie l'invitation, tout le nécessaire. Vous n'allez qu'à vous rendre à l'ambassade d'Égypte pour obtenir votre visa et vous arranger pour
payer votre billet.
Vous payez votre billet, mais dès que vous posez vos pieds à l'aéroport du Caire, c'est l'université qui vous accueille et la prise en charge pour ceux qui sont boursiers commence par là.
Oui. Alors, Monsieur Albert Loup, il a dit tout à l'heure qu'il y a un âge fixé pour postuler 36 ans. Pourquoi? On a l'impression que il y a certaines personnes qui sont exclues.
Non, parce que là, si vous voulez, nous formons des cadres supérieurs, déjà qui sont expérimentés et auxquels nous apportons un surcroît de formation.
Et pourquoi la limite d'âge?
Cette limite d'âge, elle a été fixée par les dirigeants et notamment par les chefs d'État et les organisateurs de l'université. Il ne s'agit pas de concurrencer les universités africaines. Il ne s'agit pas nous n'avons pas à recruter des masses d'étudiants. Il s'agit de former en quelque sorte une élite administrative pour l'Afrique. Et capable, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'impulser et d'accompagner le développement.
Vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ces thèmes? Quelles sont les conditions d'études à l'Université Senghor d'Alexandrie? Appelez-nous au 081 890 63 94.
Alors je voudrais ajouter qu'il y a 2 sortes d'étudiants.
Oui.
Il y a des étudiants boursiers, nous accordons un très grand nombre de bourses, et puis il y a les étudiants qui paient, n'est-ce pas, leur droit d'inscription. Mais à partir de ce moment, il faut savoir que c'est, je crois, une des rares universités dans le monde, peut-être la seule, où les étudiants sont nourris, ils sont logés, ils sont véhiculés et ils sont soignés.
La seule dans le monde.
Je pense. Oui, parce qu'ils sont totalement...
Alors, Rubio, vous étiez
aussi... C'est-à-dire qu'ils sont totalement pris en charge.
Ok.
Vous voyez, par exemple, j'ai eu dernièrement une étudiante qui a eu un cancer du rein qui s'est déclaré.
Alors qu'elle était...
Une étudiante tchadienne.
Oui.
Alors qu'elle était... à l'université Senghor, et au mois d'avril, on vient me dire, et cette étudiante, un cancer du rein, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut l'envoyer au Tchad? Je dis, je ne veux pas l'envoyer au Tchad, parce qu'elle ne va pas pouvoir être traitée.
Vous l'avez prise en charge?
On l'a prise en charge, on l'a fait opérer, et maintenant, elle est debout, et elle continue sa formation.
Des questions, des préoccupations?
Elle a été prise en charge par l'université.
Voilà, appelez-nous au 081-890-63-94.
Radio Capi au cœur de la francophonie, Vivez les moments forts du 14e sommet de la francophonie sur Radio Capi. À partir du lundi 1er octobre, des chroniques, des magazines et des journaux vous seront proposés aux couleurs de la francophonie. La francophonie au pluriel, Radio Capi bat le rythme et donne le tempo. Au plus près du 14e sommet de la francophonie, parole aux auditeurs, au Capi Service, dialogue entre Congolais, découverte et totale énergie, en direct du village de la francophonie, du 9 au 14 octobre 2012. La francophonie, c'est sur la fréquence de la paix.
Voilà, nous avons en ligne un auditeur depuis Béni au Nord Kivu, c'est Justin Séviri. Justin, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à notre invité, bonjour à tous les peuples congolais pour la fête de la francophonie.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Justin?
Je vais poser une question à notre invité. Quel est l'atout qui est lié à l'étudiant venant de l'espace francophone pour étudier en Égypte?
Vous dites quel est?
Quels sont les avantages qui sont liés à un étudiant qui vient de l'espace francophone et qui voudrait étudier là en Égypte?
Bien, Monsieur Albert Lourdes.
Deuxième question.
Oui, allez-y.
Deuxième question.
Oui.
Est-ce que l'université, le poste d'Arsengo reçoit seulement les étudiants venant des espaces francophones ou sont d'autres espaces comme le Commonwealth et d'autres espaces du monde? Merci beaucoup.
Merci, Justin. Albert
Bien,
Lourdes.
Voilà, je vais vous répondre. D'abord, sur le dernier point. Non, nous recevons des étudiants. L'université n'est pas spécialisée dans l'espace francophone. Elle est spécialisée dans les étudiants francophones. Donc nous recevons des étudiants francophones venus du monde entier. Et nous avons eu des étudiants vietnamiens, nous avons même des étudiants chinois. Je dois dire que la
Chine...
Qui parle français, bien sûr, puisque tous nos enseignements... Je dois préciser que tous nos enseignements sont en français. Mais nous exigeons de nos étudiants un très haut niveau d'anglais.
Pourquoi?
Parce que l'anglais est tout à fait nécessaire. Et nous ne faisons pas le français contre l'anglais, n'est-ce pas, nous?
Oui.
Ce que nous voulons, c'est des individus qui soient parfaitement capables, n'est-ce pas, d'agir dans le monde francophone et dans le monde anglophone, pour être utiles à leur pays.
Okay. Hein.
Donc, par conséquent, nous faisons partie de l'organisation de la francophonie, nous donnons nos cours en français, mais nos étudiants sont capables de suivre des cours en anglais, hein, avec le niveau que nous leur donnons, et même de donner des cours en anglais.
Bon. Alors, par rapport à sa première question,
la première question,
les avantages de venir
quels sont les avantages de venir? D'abord, premièrement, l'université Senghor, je vais vous le dire, c'est une université donc, qui a été créée par le sommet des chefs d'État francophones. Elle est située en Égypte parce que c'est M. Boutros Ghali qui a voulu qu'elle soit située en Égypte. Elle aurait pu être située ailleurs. Ce n'est pas une université égyptienne. Mmh. C'est une université internationale francophone. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est que c'est la seule université dans le monde qui est un éventail de professeurs. Pareil, je fais venir 150 professeurs par an venus du monde entier. Nous avons eu 24 professeurs québécois, vous avez des professeurs suisses, vous avez des professeurs français.
Combien de professeurs congolais?
Nous avons eu des professeurs congolais, je vais en rencontrer une cet après-midi.
Okay. Hein,
mais on ne peut pas faire venir 20 professeurs de chaque pays parce qu'on ne pourrait pas les utiliser. Mais d'ailleurs, vous savez, les professeurs sont évalués et celui qui est mal évalué ne revient pas l'année suivante. Hein. Donc il y a un très haut niveau d'enseignement, tous les étudiants qui viennent peuvent dire qu'il y a un niveau d'enseignement très élevé, c'est-à-dire que même l'université Senghor fonctionne comme une grande école. Hein. Donc c'est cela, donc, d'avoir l'avantage d'avoir un enseignement de très haut niveau, très diversifié, parce que le point de vue du Canada, le point de vue de la France, le point de vue de la Suisse, le point de vue du Maroc, puisqu'il y a des professeurs marocains, le point de vue concernant le développement ne sont pas les mêmes. Hein. Et par conséquent, ceci favorise l'esprit critique et va contraindre l'étudiant à se construire lui-même, et non pas par rapport à ce que raconte un professeur, n'est-ce pas? Hein? Et ça, c'est pour ça que nous formons des cadres supérieurs, n'est-ce pas, qui tiennent debout.
Bien. Nous avons deux autres auditeurs en ligne. Jires Bossile nous appelle de Kisangani, qui est dans la province orientale. Et Ngoï Kabamba se trouve à Lubumbashi, au Katanga. Jires Bossile, bonjour.
Bonjour,
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ok, j'ai seulement une préoccupation concernant les rôles que joue l'Université Senghor au sein de l'Organisation internationale de la France.
Le rôle de l'université Senghor au sein de l'OIF. Ngoï Kabamba à Lubumbashi, bonjour. Ngoï Kabamba, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Oui, c'est-à-dire ma préoccupation est la suivante.
Oui.
C'est-à-dire, quelles sont les conditions que l'université Senghor exige, par exemple pour la personne qui se trouve à Lubumbashi, afin qu'elle puisse accéder à cette université?
Bien, merci Ngoï pour cette question. Les conditions d'accès pour ceux qui sont à Lubumbashi. Alors, monsieur Albert Lourdes, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Alors, le premier, quel est le rôle de l'université Senghor? L'université Senghor est un opérateur direct de la francophonie, c'est-à-dire que c'est un opérateur direct des sommets des chefs d'État francophones. Ce sont les sommets qui fixent ce que doit faire l'université Senghor pour les quatre prochaines années et qui fixent les financements donc de l'université Senghor. Les conditions d'accès, Monsieur Rubio vient de le dire tout de suite, hein, il faut avoir 36 ans, il faut avoir un niveau de licence. Les étudiants passent un écrit, ils passent un oral parce que c'est un concours, hein. L'entrée à l'université Senghor. Donc, ils passent un écrit, ils passent un oral. S'ils ont cet écrit et cet oral, ils remplissent les conditions, notamment d'âge et de diplôme. Ils sont admis donc à l'université Senghor.
Mmh.
Mais il y a une sélection très forte. Hein. Nous avons tous les ans, nous avons régulièrement 3600 candidats et nous en prenons 250-300.
Bien. Guillaume nous appelle des Mahagui dans la province orientale. Bonjour, Guillaume.
Oui, bonjour, Jody Kachamba. Bonjour à l'invité.
Et alors, quelle est votre question?
Oh, j'ai une question, j'ai une préoccupation, j'ai une idée. Okay, je voudrais demander à monsieur l'invité, est-ce qu'à l'université d'Alexandrie, il y a aussi trop de contours comme à l'université francophone où il faut changer de diplôme français à anglais ou il faut changer de diplôme anglais à français? C'est d'abord la première question.
Un instant, Guillaume, un instant, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Ok. Comme moi, j'ai une idée qu'à l'université d'Alexandrie, ça peut être une université francophone.
Oui.
Comme dans le département de français, il y a trop de contours. Est-ce que je voudrais demander, c'est là, oui, à cette université, il y a aussi trop de contours comme si ça se passe dans le domaine francophone? Pour être admis, si vous venez dans un endroit, il faut changer de diplôme français à diplôme anglais, ou peut-être il faut changer de diplôme anglais à français. Est-ce que cela, ça se passe aussi comme ça à l'université d'Alexandrie?
Alors, vous appelez ça le droit des contours, hein?
Oui, il y a trop de contours. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien.
Voilà, donc vous voulez dire, un étudiant qui a terminé dans une université anglophone, peut-il venir là-bas? Est-ce que son diplôme sera accepté? C'est ce que vous voulez dire?
Peut-être qu'il y a retenu la moitié de la question.
Alors, veuillez nous éclaircir, parce que là, on ne comprend pas très bien, Guillaume.
Si vous ne comprenez pas très bien, je crois que c'est un dommage à la prochaine, alors.
Ah non, soyez beaucoup plus clair, comme ça, l'invité va répondre à votre question.
Ok. L'invité me répond clairement à ma question. Ma question est simple, je ne sais pas si vous voulez comprendre de quelle français. Je voudrais demander à l'invité, comme à l'université d'Alexandrie, je connais que le département de français a trop de contours. Est-ce que pour un étudiant qui vient dans le département d'anglais, par exemple dans un pays anglophone, est-ce que pour être admis à l'université d'Alexandrie, est-ce qu'il faut passer par des contours là quand ça se passe en français, ou il faut changer de diplôme français à anglais, ou il faut changer de diplôme anglais? Est-ce que c'est comme ça?
Professeur Albert, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Je veux dire que nous avons des étudiants qui viennent de pays anglophones. Hein. Nous avons des étudiants qui viennent d'Éthiopie, qui viennent et même de pays lusophones. Donc, nous, ce que nous exigeons, c'est que l'étudiant parle français. Même s'il a eu des diplômes anglophones, nous avons des étudiants qui ont des diplômes vietnamiens, ou même des diplômes chinois. Hein. Mais nous, nos enseignements sont en français, donc pour accéder à l'université Senghor, il faut parler français. Maintenant, si ces diplômes il les a eus dans une langue étrangère, nous, on s'en moque, on ne va pas lui demander de modifier ses diplômes, etc. On lui accorde l'équivalent. Mmh. Ce que ce qu'il faudra, c'est comme il va passer un écrit et un oral en français, c'est qu'il réussisse à passer cet écrit et cet oral en français. C'est la seule chose que nous demandons. Ensuite, si son diplôme est en chinois, si son diplôme est en anglais, ou si son diplôme est en espagnol, ou si son diplôme est en portugais, dans la mesure où il est aussi francophone, nous l'acceptons très volontiers.
Voilà, Guillaume, vous avez suivi, vous êtes satisfait? Guillaume? Voilà, il n'est plus en ligne, nous allons prendre un autre auditeur, il s'agit de Pascal Tubangou de Colouézi. Pascal, bonjour.
Bonjour, je voudrais rectifier quelque chose, je m'appelle Pascal Tshibambu.
Tshibambu,
à partir de Colouézi.
Voilà, Tshibambu, depuis Colouézi, on vous écoute.
Oui, oui, bon, voilà, je sais que l'université de Senghor, c'est en fait un haut lieu du savoir. Mais ma question, disons, ma préoccupation demeure, est-ce que lorsqu'on organise les études au niveau du troisième cycle, on ne doit pas en limiter l'âge, parce que, de toute façon, vous savez comment nous étudions ici au Congo, où il y a des gens qui terminent avec un léger retard, il y en a qui terminent autour de 25, 26 ans, le temps de s'organiser dans la vie, ainsi de suite. Je pense que pour embrasser un troisième cycle, il faut normalement, il aurait été mieux de prévoir que ce soit 36 ans révolus, plutôt que de dire 36 ans, parce que je pense que les gens qui ont l'âge de 36 ans et au-delà pouvaient bien accéder à cette université, et c'est là, je pense que en faisant cela, on aiderait beaucoup d'Africains.
Mais il est toujours possible de demander une dérogation. Il est toujours possible de demander une dérogation. En motivant, on peut étudier un dossier. Vous savez, on n'applique pas les règles d'une manière bête et brutale. Les règles sont faites pour l'homme et pas l'homme pour les règles. Donc, par conséquent, moi, quand un étudiant m'écrit en me disant « Voilà, j'ai 38 ans ou 39 ans, je souhaiterais accéder pour telle et telle raison, etc. », on étudie le dossier.
Bien, merci. Alain Taboutakafoua, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
On vous écoute, Alain.
Oui, je pense qu'on vient de ramasser une partie de ma question. C'était par rapport à l'âge. Je voulais savoir si 36 ans, c'est l'âge minimum ou l'âge maximum. Et de deux, bon, l'université, est-ce qu'on se limite seulement au master ou bien on permet aux étudiants de pouvoir présenter même leur thèse de doctorat et de bilan? Parvenir quand même au statut de professeur d'université. Voilà un peu ma question.
Professeur Lourdes.
Oui, tout à fait. Et nous avons ouvert, il y a maintenant à l'université, un étage doctoral, et nos étudiants peuvent poursuivre leur thèse à l'université, et d'ailleurs nous le faisons très souvent en co-tutelle avec une université du monde francophone, soit canadienne, soit suisse, soit par exemple, ça dépend des spécialités, n'est-ce pas? Mais oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je dois dire que le diplôme de l'université Senghor est reconnu partout. Nous avons des étudiants qui avaient le diplôme de l'université Senghor, sont allés poursuivre leur thèse au Canada, ils sont maintenant professeurs à l'université de Montréal. Mais effectivement, avec le master de l'université Senghor, on peut poursuivre son doctorat à Senghor, on peut le poursuivre en France. Nous avons une multitude d'étudiants qui sont inscrits en thèse dans les différentes universités européennes et nord-américaines.
Alors Rivio, partagez-nous votre expérience à l'université Senghor. Vous étiez logé dans quelles conditions? La restauration, est-ce que vous avez attribué un véhicule pour vos déplacements? Comment tout cela s'est passé?
Oui, concernant le logement, nous étions dans des quartiers, un bon quartier qu'on appelle Miami, au bord de la Méditerranée, et qui se situe à 30 minutes de véhicule de l'université qui est au centre-ville. Donc chaque matin, l'université a des bus à disposition des étudiants, qui différents bus qui se postent à des arrêts bien connus. Et c'est l'aller-retour tous les jours. Et le matin, vous avez quelque chose comme...
Un déjeuner, le matin.
Bon, c'est pas très consistant, mais vous avez quelque chose à prendre. Et à midi, vous mangez à l'université. C'est 7 jours sur 7, donc du lundi au dimanche.
Là, si vous êtes boursier.
Oui.
Ok.
Oui.
Non, même les non-boursiers.
Même les non-boursiers. C'est pour tout le monde, là.
Pour tout le monde.
Tout le monde. Oui. Et les soins de santé sont pris en charge.
Je dois donner une précision. Boursier ou non boursier, une fois que les non boursiers ont réglé leur cotisation, ils sont tous traités de la même manière. C'est-à-dire qu'ils sont logés, nourris, véhiculés et soignés, tous.
Voilà. Et quelles sont les conditions pour obtenir la bourse à l'Université Senghor,
professeur? Il faut la réclamer, n'est-ce pas? Et nous avons une commission qui examine les dossiers.
Mmh. Et les non-boursiers payent combien?
Les non-boursiers payent soit 3 000, soit 2 000 euros.
Par an?
Par an. Non, 3 000 euros, oui, c'est ça, par an. Mais je veux dire, sur cet argent, ils sont, je le répète, nourris, logés, véhiculés et soignés pendant 2 ans.
Pendant 2 ans.
Et, voilà. Et je peux aussi ajouter les billets d'avion pour aller en stage en Afrique.
Et les billets d'avion, oui.
Ouais. Et les frais de séjour aussi.
Ah, l'université vous paye les billets d'avion pour aller en stage?
Oui, bien sûr. Ouais.
Okay.
Alors, et on donne une indemnité de stage pendant le stage.
Alors,
on verse une indemnité de stage de 1000 euros par mois.
1000 euros par mois. Oui. Alors, Rubio, racontez-nous votre expérience. Alors. Poursuivez.
Oui, voilà, c'était un peu ça. Et puis, il y a des activités sportives, des visites aussi à Luxor, au Caire, voir les pyramides pour rendre un peu les séjours agréables. Et ce qui est intéressant, surtout à mon époque, il y avait 26 nationalités différentes. Donc, vous arrivez à comprendre qu'il y a un Sénégalais, un Mauritanien, un Égyptien.
Et vous étiez le seul Congolais?
Non, nous étions 6 à l'époque. Et c'était vraiment un monde de diversité. Ça vous ouvre l'esprit, c'est très intéressant. Mmh. Et moi, mon stage, je l'ai passé à l'Université de Montréal, au Canada.
Okay.
Et c'était aussi une riche expérience de rencontrer un autre monde francophone, mais en Amérique du Nord.
Voilà. Donc, c'était une belle expérience pour vous, disons.
En tout cas, c'est une belle expérience. Je peux dire, sans trop exagérer, que l'université m'a vraiment ouvert au monde.
Voilà. Votre formation, c'était dans quel domaine?
C'était dans le domaine de management de la culture des médias, qui est devenu aujourd'hui gestion des industries culturelles, c'est-à-dire on forme des entrepreneurs dans le domaine, dans les filières liées aux industries culturelles, l'industrie du disque, donc la musique, l'audiovisuel, le cinéma, le livre, donc des gens qui pourront monter des structures, des petites entreprises dans ce domaine-là, puisque dans la perspective du développement durable dans laquelle s'insère l'université, on considère que la culture y participe. C'est vraiment important. Donc, même la culture participe aussi en créant des richesses.
Voilà, donc vous avez passé 2 ans dans cette université.
Oui, deux années.
Les stages, vous êtes allé le passer au Canada.
Oui, et comme certains d'autres sont allés en Europe, en France, certains d'autres en Afrique, et c'était réparti.
Et pendant combien de temps les stages?
C'était pendant 3 mois.
Pendant trois mois. Aux frais de l'université.
Oh oui, c'est dans le document de bourse, donc c'est prévu.
Oui. Voilà, c'était une belle expérience pour vous. Alors, nous avons un auditeur nous a écrit depuis Boston, aux États-Unis. Il s'appelle Saint-Ish. Il dit, l'université Senghor d'Alexandrie est une très bonne université parce que ça forme les professionnels pour booster les développements de l'Afrique. J'ai la chance d'être fils de l'un des premiers Congolais qui a fréquenté cette université entre 1990 et 1992. Il faut signaler que c'est pour les professionnels. Il faut avoir de l'expérience. Israël Nzenzou, les moyens de Debutembo, nous dit ceci. Qu'est-ce qu'une université ou un institut supérieur congolais peut faire pour être en partenariat avec cette grande école du savoir? Est-ce que vous développez des partenariats avec les universités?
Oui, tout à fait.
Et d'autres universités?
Alors,
en Afrique?
C'est une très bonne question. Justement, nous avons ces formations à Alexandrie. Mais un des rôles de l'université Senghor aussi, c'est d'aider les universités africaines à mettre en place des filières de très haut niveau et très spécialisées, alors qu'elles manquent parfois de quelques spécialistes pour les mettre en place, et notamment pour que ces filières soient reconnues par le CAMES.
Oui.
Donc, eh bien,
c'est quoi le CAMES?
Eh bien, c'est le Conseil africain et malgache qui gère les carrières des professeurs africains.
Okay.
Et qui reconnaît les diplômes et qui garantit le niveau des diplômes. Donc, par exemple, si une université dit nous voulons il y a tel master, telle formation qui serait très utile au pays. Eh bien, si il lui manque les spécialistes ou 2 ou 3 spécialistes essentiels dans cette formation ne sera pas reconnue. Hein. Ça sera pas. Et par conséquent, nous sommes là et nous disent à cette université, si vous pouvez la monter, cette formation est utile au pays, nous allons vous aider à la monter. Hein. Mmh. Et en faisant venir les spécialistes qui manquent. Hein. Et on peut monter ces formations en partenariat. J'espère d'ailleurs que prochainement, Nous allons monter des formations en partenariat ici à Kinshasa.
Avec l'Université de Kinshasa.
Avec l'Université de Kinshasa.
Bien, merci beaucoup, professeur Lourdes. Un message adressé aux étudiants congolais ou à ceux qui sont intéressés, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Eh bien, je leur dis que l'Université Senghor est à leur disposition. L'Université Senghor est à leur disposition, c'est une chance pour eux. Hein, c'est une chance d'avoir une formation excellente et ils seront eux-mêmes une chance pour leur pays et pour l'Afrique. Saisissez-la, candidatez à l'Université Senghor, n'est-ce pas, et nous augmentons tous les ans le nombre de nos étudiants. Mmh. Je serais très heureux de les accueillir.
Alors, Ribio, un ancien boursier de l'Université Senghor, qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer?
Évidemment, je ne peux qu'encourager mes compatriotes à s'intéresser à l'Université Senghor, à postuler, à consulter le site, c'est www.usenghor, U comme université en un mot, -francophonie.org. Donc, c'est vraiment une université d'excellence qui vous ouvre, ça vous donne une capacité d'être vraiment un des futurs leaders de ce pays. C'est une des options intéressantes.
Je voudrais vous dire une chose, c'est une université excellente qui ne concurrence pas les universités africaines. Mmh. Nous sommes une université africaine. Simplement, nous sommes là pour compléter les formations qui sont données,
oui,
et des formations qui sont utiles à l'Afrique, et nous souhaitons, n'est-ce pas, développer nos partenariats avec les universités africaines locales et j'espère prochainement avec l'université de Kinshasa.
Voilà, on rappelle le site www.usenghor.
Ils mettent sur Google Senghor et puis ils auront le site. Université Senghor, ils vont trouver le site.
Professeur Albert Lourdes, recteur de l'université Senghor, je vous dis merci et merci à Ribion Zeza, un ancien boursier de cette université. À la prochaine.
Merci à vous, c'est un honneur.
Au capé.